En fait, je vais m'associer avec Jean-Sébastien Michel, qui est le propriétaire d'Alambica, pour opérer un pop-up, donc un bar éphémère qui va s'appeler Crocodile, qui va être un bar apéritif ouvert de mi-mai à septembre.
Bonjour, je suis Pascal.
Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
Allez, c'est parti, on est dans le jus.
Il y a quelques années, on disait barman. C'était lui qui te versait ta bière ou te faisait ton whisky coke. Dans les endroits plus fancy, t'avais parfois le choix entre 5 ou 6 cocktails un peu plus élaborés. Cosmopolitan, Margarita... Et bien sûr, l'incontournable Mojito, qui gossait le barman parce que ça mettait plus que 30 secondes à préparer. Et puis, vers le début des années 2000, quelque chose a changé. Le hip-hop a remis le cognac au goût du jour, les hipsters se sont intéressés aux quelques micro-distilleries locales existantes, les clients ont commencé à demander autre chose que du sucre et de l'alcool dans leurs boissons. Alors, un nouveau métier est apparu, ou plutôt réapparu. Mixologue, l'expert de la science du cocktail. Il fabrique ses propres sirops, il fermente ses fruits, met du champignon et de la fumée dans ses boissons. Il fait du sur-mesure en direct devant son client. Il invente, suit les tendances, collabore avec les distilleries. Il y a même une catégorie dédiée dans les prix culinaires. Aujourd'hui, on jase cocktail et c'est Max qui est dans le jus.
Salut Max.
Salut.
Salut Max.
Alors, je suppose que tu n'étais pas barman dans les années 2000, début 2000 en tout cas.
J'ai commencé tôt quand même.
Ah ouais?
Ouais, j'ai commencé tôt, j'avais 16 ans. 16 ans.
Ah ouais, t'as pas commencé au Canada, c'est ça?
Non, j'ai commencé.
T'as quel âge?
J'ai 39 ans maintenant.
39 ans, ok. Ouais.
Je préserve.
Je te voyais plus jeune.
Eh ben, écoute, je le prends. C'est le sport qui préserve. Mais j'ai commencé il y a quand même longtemps. À l'époque, maintenant j'aime dire ça, mais ouais, à l'époque, on fumait encore dans le bar. Les gens de service. Hein. On avait notre cendrier, on faisait nos. C'était intense. Mais j'ai fait les saisons, là, comme on dit, dans le sud de la France. Et c'était cool.
Alors, explique, pour les gens qui nous ont pas écoutés sur des épisodes d'avant où on en parlait des saisons, c'est quoi une saison dans le sud de la France?
Ben, les saisons, la plupart du temps, c'est une espèce de 5 mois que tu te fais quand t'es gamin pour pas t'emmerder pendant tes vacances. Là, en gros, tous tes potes travaillent, donc tu vas travailler aussi. Puis moi, je bossais dans le bar central sur le port de Cassis. J'étais la tour de contrôle. C'était vraiment cool.
Cassis, dans le sud de la France, à côté de Marseille.
Exactement.
Une réserve un peu naturelle, parce que c'est...
Réserve de touristes.
Magnifique. Magnifique.
Ouais, incroyable. Beaucoup de touristes.
Mais ouais, c'est justement, nous, on avait les petits bateaux qui n'étaient pas les petits bateaux de touristes, puis on avait plein de... On en profitait, mais pas comme des touristes.
Donc là, à Cassis, à cette époque-là, quand tu as commencé, vous aviez... Alors déjà, tu avais le droit de travailler à 16 ans derrière un bar, quand même hallucinant. Mm-hmm.
Et puis c'était intense, hein. C'était à l'ancienne, les vieux au comptoir, les racistes qui te sortent des vannes, puis toi il faut que tu sois là à leur servir leur
Ricard. Ça commençait tôt le matin?
Non, moi j'arrivais, j'arrivais à 4h puis je fermais le bar, mais c'était tout le temps en fait. Les gens là-bas ils viennent pour le cadre et t'as aussi, ils sont mélangés avec les clients réguliers. Donc t'as les réguliers qui sont à l'intérieur, les touristes qui sont sur la terrasse, tu sais, qui se regardent passer là, la tradition de le meilleur truc au monde là, tu regardes les gens passer puis tu juges leurs habits.
Est-ce que c'est le genre de bar quand tu rentres, tout le monde se tait et te regarde de haut en bas et te jauge?
Si t'es pas du coin, ouais, clairement. C'est génial. Mais
je veux dire, tu vas dans la petite Italie, il y a des bars, c'est encore comme ça, hein. Enfin, des cafés, c'est encore comme ça.
Pas à ce niveau.
Mais c'était à l'époque, tu sais, à l'époque, dans le fond, il y avait soit des, tu sais, Cassis, c'est une cuvette, puis en fait, au plus tu descends dans la ville, il y a deux types de personnes, en fait, non, trois types de personnes, t'as les riches qui travaillent, ou tu sais, les riches ou les joueurs de foot, ou les gens qui font du business et tout ça, qui habitent plutôt dans les hauteurs, proche des vignes. T'as les touristes, évidemment, qui sont là pour se faire saucissonner, et t'as les gens de resto. T'as tous les gens
qui
de resto
sont là pour saucissonner.
Qui sont là pour... Voilà, exactement. Donc non, c'est vraiment
des saucissonneurs.
C'était des très 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 belles années et j'ai appris le métier à la dure, à l'ancienne, torcher les toilettes tous les jours.
Alors le métier de barman
à la dure, c'est quoi?
Ben c'est qu'en fait quand j'ai commencé, j'étais le plus jeune et quand j'ai arrêté là-bas, j'étais encore le plus jeune en fait. Je travaillais avec des vieux garçons de café qui avaient tous au moins 10-20 ans de plus que moi et quand j'y retourne aujourd'hui, ils sont toujours là, c'est trop bien quoi, tu sais, c'est comme une partie de ma famille, une partie de mon enfance, et au final c'est là-bas que j'ai appris le vrai métier, parce qu'au final, tu sais, apprendre à faire des cocktails, c'est cool, mais en fait, tu sais, ce que j'ai vu beaucoup dans ma carrière, c'est des dans la nouvelle génération, des jeunes bartenders qui apprennent à faire des drinks avant d'apprendre à gérer une personne, tu sais. Donc en fait, c'est bien, tu fais des super bons cocktails, mais s'il arrive une situation de merde dans le bar, bah, qu'est-ce que tu vas faire ?
C'est le technicien.
Bah, c'est que t'es un psychologue avant tout, donc il faut que tu, faut que tu sois. Puis là, j'ai appris avec les plus gros, les plus gros morceaux là. Dans
ouais, c'est ça. Alors, t'as appris avec les Marseillais. Les Marseillais.
Les vrais de vrais.
On peut dire, les Marseillais, c'est, ah ouais, c'est des cas quand même.
Ouais, ouais, ouais.
Beaucoup c'est... de Corse, en notre cas.
Ouais, mais c'est, après, c'était un mélange, mais c'est, ouais, c'était une douce vie quand même. J'en garde des très, très bons souvenirs. Puis en plus, de toute façon, tu sais, t'as pas le choix de bosser, là. Quand t'es gamin, tous mes potes bossaient, j'aurais été tout seul si je l'avais pas fait. Donc, c'était parfait.
Donc, t'as fait ça pendant 5 ans?
Non, j'ai fait ça jusqu'à mes 27, 28 ans.
Ah, avec un, ouais, 10 ans, quoi.
De manière un peu sporadique sur la fin, parce que j'étais, tu sais, en fait, j'ai mélangé ça avec mes études de com et d'illustration. Et entre 25 et 28, j'étais plutôt illustrateur à temps plein. Mais de temps en temps, je retournais derrière le bar.
Quand t'as commencé, est-ce que c'était plus un job de support ou c'était parce que tu voulais vraiment être là-dedans?
Ah oui, bien sûr. Quand j'ai commencé à 16-17 ans, si tu m'avais dit qu'à 39 ans, j'aurais été encore dans cette industrie, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais ouais, c'était vraiment un truc pour moi. Mon objectif, c'était de faire du dessin, de vivre de ma passion, de faire du graphisme. Tu sais, j'étais en école de graphisme et tout ça. Ça se passait super bien. Et en fait, c'est en arrivant à Montréal que je suis retourné les deux pieds dans l'illustration et dans le bar, pardon, parce qu'en fait, je trouvais pas de solution, je trouvais pas de boulot, quoi.
T'es arrivé quand à Montréal ?
En novembre 2012, avec ma conjointe, et quand je suis arrivé, en fait, c'est rigolo, mais tu sais, j'étais illustrateur de presse à l'époque, je travaillais pour L'Express, tu sais, le magazine français, parisien. Puis j'étais bien sûr très arrogant, et en arrivant, j'étais genre, pour L'Express, c'est sûr que je vais arriver là, je vais trouver du boulot super facile.
Le roi du pétrole.
Exactement.
Tout le monde t'a regardé, c'est quoi L'Express? C'est le resto?
Non, pas du tout. Pas du tout. Quand j'ai envoyé mon CV, puis j'ai été tout de suite pris en entrevue à la presse. Et moi, en plus, on avait préparé notre voyage quand même, tu sais, genre comme il faut, quoi. On avait mis du cash de côté, on avait tout laissé en France et tout ça. Et j'arrive, ouais, ok, on a vu tes illustrations, c'est vraiment bien et tout, etc. Puis elle me dit, puis c'est quoi ta culture politique québécoise?
Ouais.
Et là, j'ai vu tout mon projet s'effondrer. Et là, j'ai dit, ben, rien. Elle me dit, bon, ben, désolé. Et voilà, ouais. Donc fini l'illustration de presse. Et j'ai dû me démerder. Et dans ce temps-là, j'avais la chance que j'avais trouvé un petit boulot dans un bar, le Clé Bar sur Saint-Denis.
Oui, le clébard.
Vraiment cool. Jason, il m'avait filé un boulot, puis j'avais commencé à faire un peu de bar, puis là, j'avais commencé à comprendre qu'il y avait vraiment une grosse différence de culture, surtout au niveau de la culture des spiritueux, parce que, tu sais, les spiritueux, en France, tu sais, c'est vin, bière, pastis, cacahuètes et tout ça. Mais aussi, la grosse différence de culture, c'est que, en France, quand tu fais l'apéro, tout le monde prend la même chose. Tu vois, on va boire un demi, ou alors on prend une bouteille de rosé, puis tout le monde prend la même chose. Tandis qu'ici, il y a vraiment une différente manière de consommer dans les bars, dans le sens où chacun vient, puis choisit sa consommation. Et en fait, ça a un impact sur absolument tout. Hein. La démarche, le marketing, tout. Et il y a les spiritueux. Tu vois, tu vas dans le sud de la France, personne ne se boit des gin tonic à 5 heures. Et personne ne boit de shot, il n'y a pas les Bloody Caesar, il n'y a pas tous ces trucs-là.
Même encore maintenant, je ne sais pas si tu y retournes souvent.
Negroni un peu quand même, le Spritz, Aperol un peu aussi.
Ouais, Aperol, Spritz, toutes ces choses-là.
En tout cas.
Toutes ces choses-là, oui. En province, dans les grandes villes, tu sais, Lyon, Marseille, etc., Montpellier, il y a une grosse culture du cocktail aussi. Mais ça a beaucoup évolué. Tandis que tu sais, ici, je veux dire, ici, tout le monde savait ce que c'était un kamikaze ou un amaretto sour. Quand je suis, tu sais, moi, j'avais jamais fait ça, un amaretto sour, là, en arrivant de France, et pourtant, j'avais l'impression que j'avais de l'expérience. Mais donc, j'ai commencé à apprendre ce truc-là, et après, j'avais la chance d'habiter juste à côté du lab, à l'époque, qui était sur Rachel. Ça, c'était un peu l'école du bar à cocktail français, dans le temps, grâce à Fabien Maillard, qui a été un de nos mentors. Et j'ai rencontré Eddy Germain, qui est toujours en fonction, d'ailleurs. Et
qui fait quoi
au lab. Il a un bar. Ben en fait le lab n'existe
ouais,
plus.
Ils ont... ouais, ouais.
Mais c'était le chef de bar. Okay. Puis c'est vite devenu mon pote. Puis quand en fait je me suis assis là avec ma blonde la première fois, puis que j'ai vu le back bar là avec toutes les bouteilles, puis Eddy devant qui est selon moi un des meilleurs hôtes que je connais. Tu sais, je veux dire, Eddy, c'est, tu le mets derrière un bar, il efface tout le monde. Là. C'est incroyable. Et en gros j'étais en mode ok, je veux que tu m'embauches. Et donc en gros, il m'a dit, écoute, dès qu'il y a un spot qui se libère, je t'appelle. Puis un mois et demi plus tard, j'ai fait un entretien, j'ai essayé de me débrouiller pour avoir un truc. Puis après, j'étais vraiment rentré dans le milieu du cocktail. Puis là j'ai eu la piqûre. Puis à ce moment-là, j'étais dans une situation où on avait un peu tout laissé en France. Je voulais bosser. Tu vois, j'avais 28 ans, j'étais pas en mode on est là pour le fun, les écureuils, whatever. Là. J'étais comme, je veux travailler. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis en mode 200%.
Donc ça t'a pris un mois et demi pour avoir un boulot un peu plus stable une fois que t'es arrivé, c'est ça?
Il y a eu comme espèce de 2-3 mois, comme je te dis, novembre, le temps que le printemps s'installe et que les, tu sais, un peu comme maintenant là, mettons. Là, tu sais, là, les gens ils commencent à réembaucher pour la saison d'été. Mais après moi je voulais vraiment travailler dans un bar spécialisé parce que dans ma tête je me suis dit, c'est pas vrai que je vais, j'ai plus de temps à perdre, j'ai 28 ans. Si je vais retourner dans la restauration, ce qui pour moi à la base était un échec, je veux apprendre quelque chose. Je veux que ça serve à quelque chose. Je veux qu'il y ait un côté. Je veux avoir le sentiment d'évoluer plutôt que d'aller travailler dans un pub en me disant ok, aujourd'hui c'est clock in, clock out. Je vais servir des. Puis tu sais, j'ai rien contre les pubs. Là. Au contraire, c'est la base. Mais moi, j'avais besoin de sentir que j'apprenais quelque chose parce que à la base, pour moi, retourner dans la restauration, c'était l'échec du projet quoi.
Donc tu t'es fait embaucher au lab.
Je me suis fait embaucher au lab. Ça pas duré trop longtemps. Puis après ça, j'ai travaillé à la champagnerie. C'était incroyable.
Ah oui,
c'est incroyable. J'y suis resté pendant 2-3 ans. C'était, ouais, 2 ans et demi, quelque chose comme ça.
Laurent Godbout, non?
Non. C'était, non. Ça, c'est l'épicerie.
L'épicerie. C'était des entrepreneurs.
C'était en dessous du restaurant de Hugh Chuck Hughes.
Ah oui. C'était vers le marché Bonaventure, là.
En dessous du Bremer.
Aujourd'hui, ça s'appelle la maison. Non. C'était.
Ah non?
C'était aussi.
C'était sur le vieux port, dans le vieux.
Sur la rue Saint-Paul. Saint-Paul aujourd'hui.
Ah, okay.
Ça s'appelle la maison Saint-Paul, mais à l'époque, en fait, les entrepreneurs qui avaient ça, c'était des jeunes. Ils avaient les dents. C'est ceux qui ont starté le projet de la voûte aussi là. Tu sais, c'est la même équipe, la voûte, Boulevard 44, tout ça. Puis c'était des jeunes français. Mais ils avaient les crocs, ils étaient ultra business, ils maîtrisaient vraiment le produit Supper Club entre guillemets. Puis en fait, on était plein d'anciens du lab là-bas. Puis un jour, je me rappelle, j'avais une fait que c'était on envoyait c'était top pour un barman parce que en fait, si tu veux, ils nous laissaient vraiment carte blanche pour les cocktails pendant l'apéro. Ensuite, pendant le repas, les gens buvaient du vin et du champagne, fait qu'ils dépensaient du cash, c'était parfait. Et ensuite, passé à 10-11 heures. Là, on gunnait des gin tonic. Et du coup, à la fin, on ressortait avec 500 balles, quoi. Donc, au final, on avait un côté où on avait quand même une liberté créative, un super bel espace, un super bel endroit dans le vieux port. L'équipe, elle était top. Tu sais, c'était un staff qui restait, là. Et en fait, on est encore tous, d'ailleurs, super amis de cette ancienne équipe-là. Et voilà, ça a duré. Et à un moment donné, au bout de deux ans et demi, là, je voulais retourner plus vers quelque chose qui ressemblait au cocktail. Et là j'ai rencontré, je m'étais fait ami avec un gars qui s'appelle Tony Galdès qui est un des mentors de la communauté cocktail au Québec encore aujourd'hui là. Et là j'étais rentré manager dans son bar qui s'appelait le B1 à l'époque.
Oui.
Mais en rentrant, puis il y avait un côté éducatif aussi que tu sais, Tony c'est un mec ultra fédérateur, c'est un bon gars, dans ce temps-là, on travaillait comme des malades, puis c'était encore la mode de genre, ah, je travaille 80 heures par semaine, tu sais, c'était la fierté. Là. Mais dans ce temps-là, Tony et moi, on était juste comme deux gamins, trop contents, on était crinqués sur les projets. Genre, récemment, on s'envoyait des messages, je regardais, tu sais, il y a 10 ans, le nom des cocktails, le prix des cocktails, putain, mais n'importe quoi, quand on dit ça. Les cocktails à 10$, là. T'as jamais vu, tu sais, aujourd'hui, c'est genre des cocktails en rabais. Mais regardez le nom des cocktails, on se dit, putain, mais c'est avec des noms comme ça, on peut.
Par exemple.
Ah, ça s'appelait genre le prédateur, des trucs que tu te dis putain, si aujourd'hui on faisait des noms de cocktails comme ça, on avait un cocktail, ça s'appelait Dolce Ganja, qui était, puis on le servait avec un espèce de faux joint, mais tu sais, on mettait des herbes, mais en fait, quand on le présentait, on allumait le pétard, mais tu sais, c'était pas de la weed là, c'était des herbes aromatiques, mais il y avait un vrai intérêt derrière le côté sensoriel et tout ça, sauf que tu sais, c'était un bar à cocktail d'étudiants. Et pour nous, en fait, c'était un playground incroyable, tu vois. Nous, dans notre tête, on n'était pas en mode entrepreneur, on était en mode, nous, on a un bar à cocktails, on fait des cocktails, on veut faire les meilleurs drinks possibles, puis on ouvre tous les jours, puis voilà. Puis après, tu sais, après, quand j'ai embarqué dans ce projet comme gérant avec Tony, le seul truc que je lui ai dit, c'est je lui ai dit, écoute, moi j'ai un peu d'argent de côté, puis si je rentre comme gérant, on flippe le bar dans 6 mois et on fait un vrai bar. Et après, on est allé chercher d'autres partenaires, donc Romaric Leroy, Eddy Germain, Jonathan, et on a ouvert le quatrième mur. Qui était... Ah,
c'est toi qui as ouvert le quatrième mur,
ouais, avec Saint-Denis. Ah,
et le c'était un des premiers speakeasy au stade le plus connu, en tout cas.
Bah, en fait, moi, je te dirais que c'était le premier. En fait, tu sais, on peut pas dire ça parce que le Fabien Maillard, quand il a ouvert le lab, il y avait vraiment tout était inspiré du speakeasy, mais je pense que c'était encore trop tôt pour assumer que c'est caché, on communique pas. Tu sais, nous, ce qui a marché dans nos campagnes
marketing. La porte ouais. De détective, bureau de détective.
Exact. Là, nous, ce qui a marché c'est vraiment le storytelling. À l'époque,
ben oui.
On recevait les reps avant l'ouverture, puis ils nous ont dit, ouais, mais c'est quoi l'adresse? Puis on disait, mais nous, l'adresse, on la dit pas. Puis d'ailleurs, le fun fact, c'est qu'on a galéré pendant des semaines et des semaines pour demander à Google de cacher l'adresse. Fait que là, avec le jet lag, il fallait qu'on envoie un courrier physique en Irlande pour dire à Google qu'on voulait faire retirer le truc parce que c'était une démarche marketing et tout ça. Horrible, quoi. En plus, on parlait anglais comme des vaches. Et bref, ce qui a fait que ça a pris, c'est qu'on a été les premiers à dire « ne venez pas, le bar est caché » et le bar a été plein jour 1. Et on a fait un super storytelling avec une histoire de détective, tu sais, un truc qui...
Ouais, je me souviens.
En 2014, ça a cartonné, tu vois. Et
puis c'était des super cocktails aussi.
Super cool.
Ouais, tu sais, nous en fait, je te dirais que le choix des partenaires, il a été fait sur le fait que tous les partenaires étaient des chefs de bar. Donc c'est peut-être pas la meilleure. En fait, avec du recul, c'est peut-être pas la meilleure stratégie.
Ben, ça a marché.
mais en fait, tu sais, le quatrième mur marche encore. Il est encore là. Moi, je suis sorti de ce projet. Il y a quand même un bon bout de temps. Parce qu'en fait, moi, je suis un créateur. C'est-à-dire que moi, tu sais, nous, le quatrième mur, puis après ça, on a ouvert l'école du bar de Montréal. C'est nous qui avons été les premiers aussi à opérer Miracle, le premier pop-up de Noël, là, tu sais, le bar de Noël qui est ouvert pendant un mois. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est jouer avec le concept, monter un branding, monter les trucs, aller chercher les marques, aller chercher les médias.
Une fois que ça marche, une fois que c'est établi, une fois que ça fait du cash, tu t'en fous?
Je ne suis pas un exécutant, dans le sens où moi, j'aime construire la maison de Lego, mais je ne veux pas jouer avec. Donc, j'en suis conscient maintenant. Mais moi, à l'époque, une fois que tous les projets étaient lancés et que ce qu'il fallait faire, c'était de la gestion et du développement à long terme, ça m'excitait moins. Et au final, quand je suis sorti de ça, je me suis replongé dans des projets, pareil, tu vois, bouquins, développement, projet et encore projet. Puis là, tu vois, d'ailleurs, comme je te dis, j'ai une situation professionnelle qui a changé récemment, puis je me suis remis encore dans un projet. Tu vois, j'ai cherché du boulot pendant 2 semaines, puis...
Alors, justement, là, il paraît que tu as une petite exclue pour nous.
Ben, en fait, là, c'est ça. Tu sais, moi, je suis l'ambassadeur de marque pour la distillerie Ubald.
Ouais.
Donc, en fait, après tous ces projets là du quatrième mur et tout ça, j'ai travaillé pour un média cocktail un petit peu, puis ça m'a appris le langage des agences et du RP et de comment ça marche la com, tu vois. J'avais l'expertise en cocktail, mais l'espèce de langage de bureau, de comment ça marche un journal, comment ça marche un média, puis aussi comment ça marche la communication pour les consommateurs, tu vois, comment on fait du Ricardo avec des cocktails. Ça, j'ai beaucoup appris là-dessus. Et ensuite, on a fait un bouquin qui s'appelle L'apéro au Québec. Donc, c'était le premier bouquin, c'est en 2019, c'était le premier bouquin qui est 100% cocktail québécois. Et donc, en fait, avec ce bouquin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été les. L'idée de ce livre, ça a été comme une espèce de course contre la montre, parce qu'on a eu l'idée en 2018 d'écrire ce bouquin, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on allait dans des événements, les gens nous demandaient de plus en plus des produits québécois. Tu vois, les gens qui nous disaient « Non, nous, on veut du chic-choc, on veut pas du rhum plantation. » Tu sais, au début, on s'arrachait les cheveux, là, parce qu'on était genre « Mais comment tu peux me dire que le chic-choc, c'est meilleur que le plantation ?» Et au final, on s'est dit « Ben, en fait, c'est... » On s'est pas dit « Ah, on est rendu là, on est des experts, il faut qu'on fasse un livre. » On s'est plus dit « Et là, il y a une opportunité incroyable. Le premier qui va sortir un bouquin avec des spiritueux 100% québécois, tu sais, 2018-2019, ça va cartonner. » Et en fait, ça a pas loupé. En plus, on a eu de la chance parce que la pandémie, ça a fait que panier bleu et tout ce qu'on sait. Et c'est devenu un classique, en fait, ce bouquin. Mmh. Et en fait, ça, une fois qu'on a fait ce bouquin et qu'il a été vraiment un vrai succès, Après ça, on avait la porte ouverte à toutes les distilleries québécoises. Parce que, tu sais, ça commençait vraiment à être nouveau que la, comment dire, que le marketing et le contenu numérique fassent vraiment de pair, tu sais, que ce soit un incontournable.
Ouais, parce que là, tu parles de 2019. La période 2012-2019, ça a été la période vraiment d'explosion des microbrasseries, des microdistilleries.
Exact.
Mais
il s'est vraiment passé quelque chose en 2017-2018,
ouais.
Là où les consommateurs québécois ont commencé vraiment à avoir un choix. Puis c'est entre 2016 et 2018 que là les consommateurs ils commençaient vraiment à devenir chauvins. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose que c'était ça faisait presque pas de sens. Moi j'avais été élevé. Enfin, voilà, du jean, c'est du Tanqueray. Puis toi, t'es en train de me dire que ton jean québécois, c'est le meilleur du monde. Puis que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi, genre, je travaillais avec des produits étrangers avant. Puis là, d'un coup, on a tout un bassin de consommateurs qui nous explique que non, tu sais, faut boire du Ungava, là. C'est ça le best.
Comment ce changement a été perçu par les professionnels?
Il y a eu, en fait, ça a été évolutif. Si tu veux, au début, il y a une partie des professionnels qui ont voulu embrace le truc. Il y a une autre partie, je te dirais que les plus gros experts, là, moi, personnellement, tous les bartenders, chefs de bar que je respecte le plus au Québec, en utilisent très peu, en fait, parce que, si tu veux, l'espèce de tsunami raz-de-marée de produits québécois qu'on a vu au Québec, ça les a un peu écœurés, en fait, là. Fait qu'au final, tu sais, mettons, si tu prends des top bars, là, qui sont dans les top 50, ils vont toujours avoir une bouteille de Circa parce que tout le monde respecte Paul et que c'est un pionnier et qu'ils sont origine Québec et tout ça. Mais, tu sais, quand j'ai commencé à arriver avec Hubald, en fait, pour la plupart, il y en avait plein qui n'avaient pas goûté un gin québécois depuis plus de 4 ans. Parce qu'ils étaient là, non, mais nous, on s'en fout, là, on travaille avec du Tanqueray. Puis, tu sais, le bar, c'est la business. Puis, Tanqueray va me donner 2-3 bouteilles par caisse. Puis, genre, tu sais, vous êtes jolis, là, panier bleu, mais c'est ça. Donc, ça dépend des sensibilités, je te dirais. La plupart des experts qui ont vraiment une notion business professionnelle n'ont pas tous adhéré avec la vague québécoise, entre guillemets.
Est-ce que, là, c'est une question un peu plus technique, cocktail, là, est-ce qu'il y a un gros intérêt à avoir des cocktails très haut de gamme, des alcools très haut de gamme, comme pour mettre dans des cocktails? Est-ce que ça fait une grosse différence ou pas? Parce que moi, je, personnellement, pour être gentil, je vais dire que la différence est sensible, sauf en termes de prix.
Ça dépend de ton cocktail, ça dépend de ton offre, ça dépend du contexte. Je te dirais que c'est clair que si tu fais un Manhattan avec un bourbon incroyable, un Carpano Antica à $46 la bouteille et les bonnes doses, la bonne glace, les bons trucs, ça va être toujours meilleur qu'un Manhattan raté avec un faux vermouth et du whisky cheap. Mm-hmm. Ça c'est clair et net. T'sais. En fait, le truc c'est qu'au plus tu fais des cocktails simples, au moins il y a d'ingrédients, au moins il y a la place à faire de la merde. Après, je te dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt si tu prends des mauvais ingrédients pour faire des drinks, il sera pas bon. Il faut plutôt que tu t'assures d'avoir quand même une fraîcheur dans les ingrédients et des ingrédients corrects pour avoir quelque chose d'acceptable. Après, ça dépend, tu sais, je veux dire, si tu prends un cognac à 2000 balles pour faire un Sazerac devant moi, je vais te dire non mais arrête ça, tu comprends rien quoi. Bois-le straight, ton spiritueux, enfin tu respectes pas le producteur, tu vois.
Mais t'as le client qui va vouloir ça, t'as une partie des clients qui vont vouloir ça.
C'est là où je te dis que ça dépend plutôt de l'offre, dans le sens où tu sais, mettons quand je travaillais au Clockroom, il y a une offre qui est là pour les clients comme ça. Et pour la plupart, en fait, tu saignes des yeux parce que tu leur sers un Papy Van Winkle de fou. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est claquer 1000 pièces. Ils en ont quasiment aucune idée de qu'est-ce qu'ils vont boire. Et tu sais, un sur deux va te dire, c'est quoi le truc le plus cher dans le bar? Ils vont le prendre. Et en fait, c'est cool. Il y a une offre. Le mec vient là pour claquer son cash. C'est parfait. Ça fait du bien au bar. Ça leur permet de découvrir un bon produit. Après,
c'est un peu du gâchis quoi.
Tu sais, les cocktails c'est pour faire l'apéro. Si tu me demandes est-ce que t'es capable de me faire un cocktail à 800 balles, ouais ok, vaut mieux que ce soit moi qui te le fasse plutôt que tu te le fasses. Peut-être qu'il y a des chances que je le rate moins, mais pour moi ça, tu sais, je veux dire comment dire, c'est rare les très bons experts en cocktails qui sont pas plutôt comme moi passionnés de spiritueux en fait. Tu sais, moi ce qui m'intéresse c'est les outils. Et tu me dis, tu me fais découvrir un nouveau fruit ou tu me fais entrer dans un chai, dans un truc de production de whisky, c'est le whisky que je veux goûter, je m'en fous de faire un old fashion avec. Tu vois, je veux connaître les choses sur le producteur. Et en fait, au plus tu évolues dans le milieu du cocktail, au plus tu t'intéresses à la qualité de tes ingrédients, et au plus tu t'intéresses à la qualité de tes ingrédients, au plus tu t'intéresses au producteur, et au final, derrière, c'est le côté humain qui t'intéresse, tu vois.
Ou
alors, là encore, question d'offre, tu ouvres un projet, tu veux faire du cash. Puis là, tu vas appeler des gens pour faire de la business avec des ristournes, avec des trucs, avec de l'argent. Mais là, on ne parle plus de la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mon métier, tu ne parles pas de la même manière au consommateur que tu parles au producteur ou au distributeur. C'est deux choses complètement différentes.
C'est intéressant comme vision. Hein. Il y a quelque chose qui est marquant. Tu vois, tu parlais de l'industrie du bar tout à l'heure. Moi, personnellement, je sais pas toi, Pascal, mais je connaissais personne, aucun des noms que t'as cité, quoi, dans les acteurs. Mais tu vois, il y a quand même une grosse différence entre l'industrie de la restauration et l'industrie du bar, qui sont complètement différentes. Et ce qui a toujours été incroyable dans les bars, moi, qui m'a toujours fasciné, c'est que t'as un facteur X que je sais pas à quel point tu peux le maîtriser, mais le même bar, le mec qui va vendre les mêmes cocktails, qui va avoir la même déco, eh ben, entre, il y en a un qui va marcher et il y en a un qui va pas marcher à côté. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou...
Ça dépend de, c'est une question de tempo selon moi, tu vois, quand on a ouvert le quatrième mur, par exemple, tu vois, par exemple, le quatrième mur aujourd'hui, ils ont une offre qui est installée avec une clientèle d'habitués, etc. Puis, tu sais, je suis super content pour eux, mais je suis pas sûr que si aujourd'hui, t'ouvres dans le sud-ouest un speakeasy caché avec des nœuds papes et des choses comme ça, c'est plus vraiment dans la tendance. Donc en fait, le secret, c'est toujours de prendre le pouls de ce qui se passe à l'étranger et de l'apporter dans une métropole, c'est puisqu'on parle de Montréal en l'occurrence, mais après c'est comme n'importe quelle marque. T'sais, aujourd'hui les bars c'est des marques. Aujourd'hui tu vois, on faisait le parallèle avec Cassis tout à l'heure. À Cassis, tout le monde a la même offre parce que les gens ils viennent pour le cadre. Mais à Montréal, t'es dans un centre-ville, c'est la guerre du marketing. Donc en fait, t'as une marque, il faut que tu en fasses la promotion du mieux possible. Il faut que t'aies un branding solide, il faut que t'aies des réseaux sociaux en béton, il faut que t'aies du staff qui sorte aussi. Parce que tu sais, moi aujourd'hui, je remplis pas un bar là. C'est les kids du cold room, eux, ils remplissent un bar parce que ils sortent, ils ont 26 ans, ils sont motivés, ils sont dedans, ils sont dans leur era. Puis moi, tu me prends en guest bartending, ouais super, je vais te faire des bons drinks. Mais tous mes potes, c'est des papas de 40 ans, ils vont pas venir, tu vois. Donc c'est un projet, c'est comme une marque. Ça veut dire qu'il faut que tu aies tous les langages de la com avec une offre appropriée, avec un décor approprié. Et en fait, ce qui révèle, c'est une question d'expertise. Tu sais, je prends l'exemple de Andrew Whibley, qui est un des piliers. C'est le propriétaire du Cloakroom et le gars qui a repris aussi le projet du Bar Dominion. Ben, tout ce qu'il fait, ça marche parce qu'il a le pouls, il a une connaissance parfaite des tendances internationales, les cocktails sont tight. Il sait très bien que au Cloakroom il va faire du cocktail sur mesure, mais alors dans une autre place c'est pas ça qui va falloir, tu vois. Donc c'est
les tendances durent combien de temps dans l'industrie du bar?
Entre 2 et 3 ans, je te dirais.
Donc ça veut dire que t'ouvres un bar de la nouvelle tendance, au bout de 2-3 ans, est-ce qu'il faut que tu t'installes dans la tendance, est-ce qu'il faut que tu changes l'atmosphère de ton bar, ou ça dépend?
Je pense qu'il faut que il faut pas perdre ton projet de vue. T'sais, après moi, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un bar non plus, donc je veux pas prendre la parole comme propriétaire de bar. Mais je pense qu'il faut que tu aies une capacité à évoluer et à t'intégrer bien dans ton quartier aussi. Tu vois, exemple, le quatrième mur, ils ont plein de clientèle. T'sais, ils sont super bien installés avec les touristes, par exemple. Ils ont des super reviews. C'est un bar à thème, c'est toujours sympa parce que tu arrives vraiment dans une atmosphère particulière. Puis pareil pour le cold room, ce qui les fait vivre dans le fond, c'est le tourisme. Et il y a aussi une petite partie d'aficionados du cocktail, des gens d'industrie qui vont sortir dans ton bar et tout ça. Mais après, la pérennité, ça veut rien dire. Aujourd'hui, tu vas à la distillerie, je veux dire, il y a toujours une clientèle d'habitués. Philippe, il est toujours là. Je sais pas s'il y a une recette secrète. Si je l'avais, j'aurais 12
bars. Alors, tu nous dois une exclue.
Ah ouais.
Tu nous as dit que tu n'allais pas ouvrir un bar. Non. Envoie ton exclue.
Je vais, à partir du. En fait, je vais m'associer avec Jean-Sébastien Michel, qui est le propriétaire d'Alambica, pour opérer un pop-up, donc un bar éphémère qui va s'appeler Crocodile, qui va être un bar apéritif ouvert de mi-mai à septembre. Donc, apéritif, vin ouvert, simple. Genre 5-6 cocktails. Tu vois, d'ailleurs, tu avais dit ça en introduction, mais aujourd'hui, on revient à des menus à 5-6 cocktails.
Ah ouais, ouais. Moins du sur-mesure.
Ben, en fait, le truc, c'est que c'est toujours des bonnes des variations simples de cocktails, okay. Bien exécutées. Donc, et pas de flafla, tu vois, moi sur mes menus, il y aura jamais d'ingrédients que tu vas être obligé d'aller sur Google pour savoir ce que c'est là. Je déteste ça. J'adore avoir des cocktails lisibles, simples qui vont à l'essentiel. Tu sais, je veux dire, tu sais, je vous ai fait un petit drink avec une tête de menthe. Enfin, dans 30 ans, on fera toujours des cocktails avec une tête de menthe. La menthe, c'est bon, c'est logique. Il faut l'utiliser.
Donc le cocktail, le bar éphémère que tu vas ouvrir, où est-ce qu'il va se trouver?
Donc c'est.
T'as le droit de dire l'adresse cette fois.
Ouais, c'est beau bien Saint-Laurent. Ouais, puis en plus on n'aura pas de neopapes, on va être chill. C'est donc au coin de Beaubien Saint-Laurent. Donc en fait c'est dans le backstore de la boutique Alambica, ouvert du jeudi au samedi. C'est, on veut pas se faire chier avec les petites journées. Et puis apéritif, on va vraiment focuser là-dessus.
Donc c'est quoi, 17h
À 17h, 1h. Mais okay. Ce que je veux dire, c'est que l'offre, ça va être une offre plus apéritif. Donc beaucoup axé sur les apéritifs, les vermouths. Tu sais, on aura quand même une margarita parce que tout le monde aime boire une margarita. Mais bière locale, on va travailler avec Messorem. Fait qu'on est une exclue avec Messorem. Pinard et Fille au vert avec d'autres sélections de vins.
C'est déjà difficile à obtenir comme stock, ça.
Ben c'est ça, c'est ça que ça sert d'être vieux là, c'est d'arriver en disant bon ben moi j'ai un gros CV, regardez est-ce que vous pouvez m'autoriser à handle vos produits. Puis tu sais les gars ils nous ont, c'était rigolo parce que tu sais quand on a parlé avec Messorem ils nous ont comme validé là. Ouais. Tu sais c'était ils voulaient savoir qui on était avant, puis là ils ont aimé l'approche. Je pense qu'ils sont plus picky avec des retailers qui vendent de la bière que moi. Alors disant, regardez-moi, mon focus, mon cost, il va être tout sur les cocktails. Moi, je veux vous avoir beaucoup pour le brand awareness parce que genre vous êtes trop cool, vos bières sont trop bonnes.
Ouais, et puis t'arrives ton CV, tu dis que c'est une collab avec Alambica qui sont quand même une référence au
Québec.
Oui,
exact. C'est l'avantage, la collab avec Jean-Seb et moi. Bon, déjà, Jean-Seb, c'est mon pote, il est super cool, mais c'est que tout fit, en fait, la complémentarité, elle est logique. En fait, moi, je prends ses outils, je fais des drinks avec, et il y a tout un... Il y a tout un aspect derrière aussi autour du projet où on va s'assurer que tout est bien fait dans les médias, qu'il y a du beau contenu derrière, qu'on a un staff, on a un staff qui est actuel, qui sort en ce moment. Donc ça va être cool. On va l'annoncer. Ben là, on est en train de l'annoncer.
C'est la fin de cette première partie. On se retrouve dès demain pour la suite de cette conversation. Ciao, ciao.